C'est ça la classe.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, c'est ça la classe, numéro 16 cette semaine, et nous continuons en direct sur RDIWA 107.5, et bien notre réception, on va appeler ça comme ça, des différents candidats à la mairie de Die. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Didier Jouve, qui est candidat vert au municipal dans quelques semaines. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation des lycéens et des lycéennes qui sont autour de la table.
C'est bien normal.
Alors dans 10 minutes précisément, à 12h20, eh bien, vous aurez 40 minutes d'échange avec ces lycéens qui ont beaucoup de questions à vous poser sur les compétences d'une municipalité et de celle de Die en l'occurrence. Ils ont des questions sur un certain nombre de domaines, très nombreux. Ils sont curieux d'avoir vos réponses sur ces différents sujets. Donc, vous restez avec nous pendant les 10 premières minutes, car vous allez voir qu'ils sont déjà intéressés par l'actualité, même nationale, internationale, au-delà des municipales. Et on va donc commencer par notre rubrique habituelle, qui d'habitude termine l'émission, mais nous avons en ce moment des émissions spéciales municipales, vous l'avez compris, par les coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité? Alors, en vrac, c'est des suggestions, mais vous pouvez rebondir évidemment sur d'autres choses, et je vous présente dans 2 minutes quand même. Pas de souci, comme d'habitude. Je pense évidemment en ce moment au voyage d'État de M. Hollande aux États-Unis. J'ai entendu un sondage aussi ce matin, 73% des jeunes entre 15 et 30 ans qui pensent qu'il faudrait des quotas pour ce qu'on appelle les minorités dans les différents mandats électifs. Est-ce que c'est des choses qui vous suggèrent des commentaires ou pas? On va le savoir dans quelques minutes. Bonjour Jimmy.
Bonjour.
Bonjour Jean-Raphaël.
Bonjour.
Bonjour Joris.
Bonjour.
Bonjour Arthur.
Bonjour.
Sophie, bonjour. Bonjour. Ulysse.
Bonjour.
Bonjour à toi. Anne-Sophie.
Bonjour.
Et enfin, monsieur Théo.
Bonjour.
Vous êtes en forme?
Oui.
Alors je vous écoute. Dans les 7 jours qui sont écoulés depuis la dernière fois, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, choqué, révolté, plus dans l'actualité récente ou moins récente de ces 7 derniers jours? Oui Théo.
Donc moi, j'ai des parents qui sont instituteurs et on a entendu dire que comme quoi, je sais plus si c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit que au niveau des points en fait qu'on gagne quand on est instituteur pour évoluer dans sa carrière, qu'il voudrait les geler, qu'on appelle ça, donc les supprimer. Donc il y a des instituteurs qui travaillent depuis très longtemps et on veut leur geler, donc c'est-à-dire retourner au départ donc leur salaire de départ et mettre plus longtemps pour évoluer au niveau du salaire. Déjà qu'on augmente les prix au niveau de la vie et on n'augmente pas les salaires, c'est un peu incohérent, je trouve.
Par rapport à la rémunération, c'est ça, voilà, c'est système ça. De points qui permettrait d'avancer plus vite et ça ouais. Serait peut-être gelé. J'ai entendu ça dans l'actualité, voilà, c'est pour l'instant une hypothèse hein, que le ministre de l'Éducation semble avoir démenti, mais c'est un bruit qui court. Dans la grande politique d'économie budgétaire annoncée par le gouvernement en ce moment, ça peut faire partie des pistes, effectivement. Les fonctionnaires sont souvent dans ceux qui sont désignés, par définition, puisque payés par l'État, comme coûtant beaucoup d'argent. Après, c'est toujours pareil, où est-ce qu'on coupe? Et est-ce que c'est les infirmières? Est-ce que c'est les médecins? C'est toujours la même tarte à la crème, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on veut moins de fonctionnaires, mais quand il s'agit de dire lesquels, c'est un peu plus compliqué. En général, on dit les bureaucrates, mais ça veut tout dire, rien dire. L'administration, ça a commencé un peu à Bercy quand même, la réduction d'effectifs administratifs. D'autres choses? Oui, Jimmy?
Les récentes médailles des JO pour les Français.
Ah, les JO, bien sûr.
Oui, les JO d'hiver. Donc il y a une médaille d'or, genre, je sais plus qui, une médaille de bronze, c'est déjà bien.
Martin Fourcade.
Et
deux médailles de bronze, hein, par contre. Hier au saut.
Une jeune skieuse en saut.
Oui. 18 ans.
Ouais. 18 ans, effectivement, elle était très émue. Je l'ai vue chez David Pujadas, ce journal de 20h.
Colline Mattel.
Ah oui, ouais. Merci Ulysse pour la précision journalistique. Arthur.
Et aussi un coup de cœur pour Perrine Lafont, une jeune skieuse de Beauce qui a 15 ans. Et qui a fait les JO, qui est arrivé jusqu'en finale et qui a fait un très beau run de qualification et en finale qui a on peut dire qui est passé à côté de son run, mais moi je trouve qu'elle démérite pas et qu'elle a réussi, comme elle avait dit lors d'un meeting, son premier vœu qui était de se qualifier en finale, et dans 4 ans au Japon, je crois c'est ça, les prochains Jeux Olympiques, son deuxième vœu était de remporter cette épreuve de ski de Beauce.
D'accord. Sur la visite d'État de M. Hollande, est-ce que vous avez eu le temps de voir des images? Alors les internes, c'est un peu plus compliqué peut-être, mais les DIWA au sens large, un peu plus facile de regarder les images. Qu'est-ce que vous pensez de cette réception, qui est quand même plutôt en grande pompe, en tout cas c'est commenté comme ça par les médias, justifiée, sincère, qu'à moitié sincère d'après vous? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que c'est bien d'avoir une amitié aussi forte entre deux pays depuis longtemps alliés? Avec quelques couacs.
Moi, je pense que c'est plutôt une bonne initiative parce que de toute façon, avec les Américains, on est d'une certaine manière, on est un peu obligé d'être amis avec eux, puisque de toute façon, ils dirigent la planète, donc autant d'être du bon côté de la force, on va dire. Et puis, par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est que je sais pas si c'est vraiment.
Ça fait un peu devoir conjugal, ça, ta façon de présenter les choses.
C'est... Hélas, mais parce que justement, j'ai entendu que lors de leur dialogue, puis de leur conférence commune, donc hier soir à la Maison Blanche, les deux présidents avaient très peu évoqué le scandale des écoutes de la NSA. Donc les Américains, on en avait déjà parlé sur ces essais il y a 4 mois, je crois. Donc une agence de renseignement américaine, la NSA, espionne toute la planète, tout le temps, partout où on veut, enfin tout le temps, partout. Et apparemment, M. Hollande se serait fait discret sur ce sujet, n'aurait bien évité la crise diplomatique. Sachant qu'il existe aussi un Big Brother français à la DGSE. Donc je pense que c'est vraiment un point qui est problématique et je pense qu'il faut vraiment l'aborder parce que les Américains ils sont complètement en position de puissance. Et
tu penses qu'on a mis un peu les problèmes sous le tapis?
Ah bah carrément, pour éviter l'incident diplomatique et pour lécher les bottes des Américains... En vue, il faut le savoir.
Un peu fort là peut-être.
Toujours moi.
Toujours, c'est vrai, on a l'habitude. Pourquoi je m'en étonne encore? Ulysse.
Et donc je pense que il aurait vraiment fallu insister là-dessus au niveau du dialogue entre les deux présidents. Je pense que ça me paraît vraiment très important au niveau mondial ce scandale-là.
D'accord. D'autres choses? Théo? Sur le même sujet ou sur un autre?
Idée, là.
Oui, Anne-Sophie.
Moi, c'était juste pour revenir par rapport au JO. J'ai regardé la cérémonie d'ouverture et j'étais toujours surprise de la grandeur de cette cérémonie. Mais dans un sens, c'est toujours le même problème parce que les Russes ont dû beaucoup, beaucoup dépenser pour cette cérémonie. Et dans un pays, c'est pas en ce moment, la Russie, il y a beaucoup de problèmes aussi. Et donc, dépenser autant d'argent pour une cérémonie comme ça, on peut se demander si ça en vaut la peine. En tout cas, pour un spectateur comme ça, c'était beau à voir.
En tout cas, ça donnait lieu à beaucoup de polémiques. C'était, on a un peu l'impression que c'est vrai que c'est le grand projet de Poutine depuis plusieurs années maintenant et que c'est son projet à lui. Après, probablement aussi, et j'espère, on le verra à la fin des JO, mais les Russes qui en profiteront aussi. Mais il a été un petit peu mégalomane peut-être sur ce coup-là. Et puis je crois qu'il y a eu aussi des soucis par rapport à la nature et par rapport au site choisi. Oui, Ulysse ?
Oui, moi je pense on a entendu donc à côté du côté sportif qu'il ne faut pas oublier, on a aussi beaucoup vu, et heureusement, des reportages sur les déplacés, c'est-à-dire qu'on a détruit des dizaines, des centaines d'habitations et qu'on n'a pas ou très mal relogé les habitants. on a détruit des dizaines, des centaines d'hectares de zones protégées avec des espèces sauvages qui sont en déclin. En plus, de nombreux doutes, de nombreux. On pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés à la construction, qu'il y a eu. Enfin, c'est pas. Une construction très peu démocratique finalement de ces JO et je pense que c'est vraiment pas normal de balancer 37 milliards d'euros pour des jeux de 2 semaines et pour moi c'est du gaspillage et c'est pas normal d'accorder des jeux qu'on savait à un pays qui n'est pas démocratique et qui ne défend pas l'environnement qui ne respecte pas ses populations locales et pour moi le côté sportif est beau mais il ne doit pas cacher la réalité sociale.
On termine avec Jimmy ? Et puis on commencera notre entretien avec Didier Jouve.
Donc c'est juste pour dire que bon, pour le niveau environnemental, je suis assez d'accord avec toi, il ne serait pas dû, mais pour le niveau dépenses, bon, peut-être que 37 milliards c'est beaucoup. Mais d'un côté, les JO ça arrive tous les 4 ans et ça arrive quasiment jamais 2 fois dans le même pays. Donc d'un côté, les dépenses ça peut être expliqué au niveau sportif parce que voilà, c'est quand même quelque chose de. Les JO c'est quand même plus regardé que les championnats du monde. Je n'ai pas regardé par exemple les skis de boss, enfin il y en a qui regardent, mais moi par exemple je regarderai jamais le championnat du monde de ski de boss.
Tu vois, donc, qu'est-ce que tu as contre le ski de boss?
Non, c'est rien contre ça, mais
il y a trop de sport.
Non, au JO, je les regarderai parce que je regarde les JO, d'accord. Mais je chercherai jamais à regarder comme ça. Un sport
d'accord, oui, pardon, c'est l'inverse. Tu me dis qu'à l'occasion des JO, on découvre des sports qu'on ne connaît pas. Un tout dernier mot avec Sophie.
Moi, je suis d'accord avec Jimmy que ça arrive tous les 4 ans et
les pays veulent essayer de faire un truc d'exceptionnel pour bah, représenter leur pays, pour montrer que c'est eux les meilleurs un peu.
D'accord. Je vous rappelle que le standard est ouvert au 0952 368 531. 0952 368 531. Et donc pour 40 minutes, Monsieur Jouve, merci encore d'être parmi nous. Eh bien, nous allons pouvoir dialoguer avec le candidat vert au municipal. Alors, justement, c'était, je vais laisser la parole au lycéen dans quelques secondes, mais c'était un peu la question que posait Monsieur Lowenberg, dont je me fais le tampon entre vous et lui. Il disait que vous aviez retiré le logo EELV sur votre site. Est-ce que c'est vrai? Je vois que vous n'opinez pas du chef quand je dis candidat vert. Alors, vous allez me corriger.
D'abord, ça fait fort longtemps que l'organisation politique dont je fais partie ne s'appelle plus Les Verts, mais s'appelle Europe Écologie.
EELV, oui.
Et c'était... Ce n'est pas rien, c'était une évolution forte, c'était aussi le fait que beaucoup de gens qui n'y étaient pas avant sont rentrés dans cette organisation avec des idées nouvelles, avec, je crois, plus d'ouverture, et moi j'avais envie de ça. Et donc c'est un point important pour nous. Ce changement de nom n'était pas qu'un changement de nom, c'était aussi un changement de manière de regarder le monde et de faire de la politique. Donc c'est pour ça. Ma deuxième observation, c'est que dans cette élection municipale, il y a 27 personnes. Donc on parle souvent de la tête de liste, mais pour nous, et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, c'est toute une équipe qui se présente. Dans cette équipe, il y a 6 adhérents d'Europe Écologie Les Verts, et il y a donc 21 personnes qui ne sont pas adhérentes d'un parti politique. Ça veut dire que notre liste, c'est une liste ouverte, et nous ne voulions pas imposer aux 21 autres la présence trop forte d'un logo qui concerne 6 personnes. Voilà. D'accord, la raison pour laquelle le logo sera présent en tant que soutien, puisque Europe Écologie Les Verts soutient cette liste. Mais cette liste n'est pas une liste d'Europe Écologie Les Verts, c'est d'abord une liste de 21 personnes qui ne sont pas adhérentes d'un parti politique et de 6 qui sont adhérentes.
D'accord. Monsieur Lowenberg, encore lui, puis après on parlera de votre programme, ne vous inquiétez pas.
C'est
mais suggérer aussi une main tendue, vous avez certainement dû l'entendre, il l'expliquait d'ailleurs ici même dans ses studios, que ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il vous proposait une liste commune. Donc, de votre côté, ça n'est pas une initiative positive.
C'est pas la question. La question, c'est que les élections, je pense qu'il faut en respecter la forme et le fond. On est en France dans des élections à 2 tours. Et quand il y a 2 tours, le premier tour permet aux gens d'exprimer leurs préférences, de dire vraiment ce qu'ils ont envie. Et au deuxième tour, ils doivent choisir. Il y avait une vieille formule qui disait au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Eh bien, c'est un peu violent, mais en même temps, il y a une réalité de ces 2 tours qui existent, qui permettent aux gens de s'exprimer. Et nous, nous trouvons que quand on crée des grosses unions de premier tour, de toute façon, on prive les électeurs d'un choix. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est qu'on nous dit souvent, oui, l'écologie politique, il n'y en a pas vraiment besoin parce que finalement, tous les partis font de l'écologie. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Et que si on y revient tout à l'heure, j'espère... Je pense qu'il y a des choses à dire sur le fond, hein, qui font qu'aujourd'hui il y a un projet politique écologique qui n'est pas le même que d'autres projets politiques. Mais c'est sur le fond, et je crois qu'on a besoin de temps pour en parler.
Deux sujets rapidement, si vous pouvez, même si c'est peut-être compliqué d'être rapide sur deux sujets-là. Mais bon, c'est important aussi de comparer les projets, puisque c'est un peu le but aussi de cette émission. Sur la déviation d'Audi, vieille de 60 ans, vieux serpent de mer, et sur la piscine couverte, je crois que vous n'avez pas du tout le même positionnement que d'autres candidats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Donc déviation, piscine couverte, ça n'a à la fois rien à voir, mais tout à voir, c'est deux chantiers coûteux. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai vu dans votre programme que la piscine couverte était une de vos propositions, par exemple.
Alors sur la déviation, d'abord, c'est pas la première fois, on s'était déjà exprimé en 2008 là-dessus. On a toujours dit qu'il n'y avait pas besoin d'une grosse déviation à Audi. D'ailleurs, les trafics, c'est environ 3500 véhicules semaine hors saison. Ça peut monter à 7000 en plein été, mais pas bien plus que ça. Donc ce sont des petits trafics qui ne nécessitent certainement pas une déviation routière au gabarit départemental. Et donc nous avons toujours été hostiles, et vous regarderez depuis très longtemps, au fait qu'on construise des gros projets de déviation. Ni celui qui transperçait le Perrier, ni celui qui passait dans la montagne de Justin. Donc pour nous, c'est clair. Ensuite, ce que nous avons dit... c'est qu'on aurait besoin de respirer un peu sur le boulevard et qu'on aurait besoin de retrouver un peu d'espace pour les piétons, pour les enfants, pour la qualité de vie de cet espace. Et que si le Conseil général continuait à avoir envie de faire quelque chose sur la traversée de Die, nous lui ferions une proposition
mais ce qui semble pas être vraiment le cas, d'après ce que nous a dit en tout cas Monsieur Löwenberg.
Mais beaucoup plus modeste. Voilà, Philippe Löwenberg est conseiller général, il est en situation de dire.
J'en profite au passage, pardon, pour nos auditeurs qui savent certainement, mais parce que je ne vous ai pas présenté complètement, que vous êtes aussi conseiller régional et président de la commission des finances, donc pour la région Rhône-Alpes.
C'est ça, voilà. Et j'étais dans le mandat précédent vice-président chargé de l'aménagement du territoire.
D'accord. Et sur la piscine couverte, alors, et après, laisse vraiment la parole aux lycéennes, parce que c'est eux qui doivent vous poser.
Et sur la piscine couverte, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Et si on nous lit, on verra qu'on ne parle pas de la même chose.
On a un projet plus large autour de la santé aussi. Si
oui, nous parlons d'un projet qui, à notre avis, serait nécessaire, mais ça ne serait pas un projet pour faire des longueurs. Et ça, c'est effectivement des piscines couvertes. Soit pour faire des longueurs, soit pour faire un espace ludique, sont des choses qui sont hors de prix et qui sont hors de proportion, en tout cas avec les budgets dont on dispose ici. Par contre, ce que nous disons, mais c'est en lien avec la stratégie de santé qu'on aimerait déployer, c'est en lien avec aussi ce qu'on aimerait offrir aux habitants ici, nous avons besoin d'un, on l'appelle une piscine parce que je ne connais pas d'autre nom, d'un espace aquatique qui permet de faire de la gymnastique, de faire de la remise en forme, de nager, d'apprendre à nager, de venir avec des bébés, vous voyez, de faire... Et ça permettrait aussi d'offrir des palettes plus importantes d'accueil pour les gens qui viennent en convalescence. Donc c'est un projet d'ensemble qui est à la fois sportif, remise en forme, santé, mais de dimensions beaucoup plus modestes.
Et en termes de financement, il y a plusieurs partenaires possibles, j'imagine.
Voilà, de dimensions beaucoup plus modestes, moins chères à faire fonctionner et avec plusieurs financeurs autour de la table. C'est ça l'idée. On n'a pas dit qu'on y arriverait, mais on a dit qu'on l'étudierait et qu'on essaierait d'y arriver. Je pense que c'est possible.
D'accord, merci. Les lycéens, lycéennes, c'est à vous. Peut-être Jimmy et Ulysse.
Donc j'ai bien compris vos projets par rapport donc, à la piscine couverte. Mais est-ce qu'elle resterait encore accessible aux jeunes comme nous?
Évidemment, oui, oui.
Okay. Ulysse.
En tant que lycéen, c'est une question qui nous impacte beaucoup. Que comptez-vous faire à propos du Square Saint-Pierre? On sait qu'il y a beaucoup de problèmes autour de cela.
Il faut...
Monument mort.
Oui, oui. Alors... Bon, c'est une place qui est, je vais le dire carrément, c'est une place qui est moche, qui est triste, qui a des flaques d'eau, qui est très désagréable. Enfin, c'est très dommage d'avoir un espace comme ça, qui est un espace central, où vous êtes 5 ou 600 à passer dessus. C'est un espace de rencontre, le carré est pas loin. Enfin, c'est vraiment un endroit qui devrait être complètement remis en état. Donc pour nous, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est forcément avec les usagers que ça se fait, avec vous. C'est forcément une discussion aussi avec les gens qui viennent sur cette place commémorer, faire acte de mémoire. Donc il faut parler aussi avec eux. Je crois que c'est important. Mais je crois que justement, une société, c'est tout un ensemble de gens, des jeunes, des vieux, qui sont capables de partager ensemble des espaces et de voir comment ils fonctionnent ensemble. Donc nous, l'idée est toute simple. Cette place, il faudra tout de suite lancer les études et la réflexion ensemble pour voir comment on la réaménage, comment on la rend utile, comment on la rend sympa, comment elle peut répondre à tous les usages qui s'y trouvent. Et ça se fera avec tout le monde, ça ne peut pas se faire dans un bureau d'experts.
Est-ce que vous envisagez un déplacement du monument aux morts?
Je n'envisage rien a priori, tant que je n'aurai pas pris le temps, et tant que notre équipe n'aura pas pris le temps de discuter avec tout le monde.
Anne-Sophie?
Du coup, tout à l'heure, vous nous parliez de la santé, qui a une importance apparemment pour vous, Surdi. Et c'était par rapport au projet de la maison de santé. Qu'est-ce que vous comptiez faire, le continuer à Chanqueras?
Oui, alors, ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur la maison de santé, c'est que, en tant que conseiller régional, j'ai recherché des subventions pour cette maison. Donc, c'est pour vous dire sur le fond que je suis complètement pour, dans notre projet, l'équipe. Nous avons proposé ces maisons de santé, mais dans un cadre global, c'est-à-dire maisons de santé, plus une réflexion en profondeur sur l'hôpital pour lui permettre de rebondir sur de nouvelles spécialités, plus un travail avec la médecine de ville, plus, une mise en relation aussi avec les thérapeutes de médecine alternative, plus une réflexion globale sur la prévention, avoir aussi un plan de prévention. Pour nous, aborder la santé, c'est l'aborder dans tous ces éléments. Alors vous me demandez... Si nous voulons cette maison de santé à Chanqueras, nous avons dit non, et depuis longtemps, et nous avons dit que cette maison de santé, elle devrait être dans le centre-ville. Je suis d'ailleurs, je me rends compte que de plus en plus de gens nous disent « vous avez sans doute raison là-dessus ». Je crois que c'est encore possible de l'implanter en centre-ville. Pourquoi alors? Pourquoi en centre-ville? Eh bien d'abord parce qu'on ne peut pas imaginer... à la fois se plaindre que la ville est en train de dépérir, se vider, Et puis, chaque fois que l'occasion se présente, implanter les choses à l'extérieur. Il faut avoir quand même une logique d'aménagement à peu près normale. L'autre élément, c'est que quand on est dans un parcours de santé, on est aussi avec le laboratoire, on est aussi avec les pharmacies, on est aussi avec les médecins de ville. Enfin, il se passe tout un ensemble de choses. On a besoin d'une cité vivante. Donc, notre idée, c'est que cette maison de santé aurait dû, je l'avais dit au maire à l'époque d'ailleurs, aurait dû être implantée place du Mazel. Et peut-être, de toute façon, et c'est encore possible, on verra comment on peut s'y prendre. Si le dossier n'est pas complètement irréversible, nous ramènerons la maison de santé au centre-ville.
Parce que du coup, M. Levenberg nous avait répondu qu'il voulait la mettre plus à l'extérieur, justement parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur et que ça facilitait l'accès. Mais...
chacun sa manière de voir les choses. Nous pensons qu'il faut l'installer à un endroit où, bien évidemment, on réservera des places de stationnement pour que les gens puissent arriver jusque devant la maison. Mais en même temps, que cette maison, comme tout un ensemble d'équipements que nous imaginons, participe à la vie de la ville. Vous savez, on a déjà vécu l'Intermarché, il y a un projet d'extension de l'Intermarché, il y a eu la mise en place de Lidl, et puis maintenant, Champs-Queyras, on commence à parler de surface commerciale à Champs-Queyras. Ça paraît, a priori, comme ça, les gens se disent « Ah bah oui, ça va être pratique ». Mais quand on y réfléchit bien, si on se met à mettre dehors tout le temps tout ce qui fait vie, eh bien on terminerait rapidement de vider le centre-ville. C'est le contraire qu'il faut faire. Cette ville, on en est fier, on est content d'avoir qu'elle vit encore, on est encore content de voir qu'il y a des commerces dedans. Les gens qui viennent de l'extérieur disent « Ah ben, à la différence d'autres villes que je ne citerai pas dans la vallée, c'est vivant ben, ». Il faut que ça dure et il faut s'en occuper.
Avec les difficultés quand même de circulation... de cohabitation pédestre et automobile dans les rues étroites du centre-ville de Die.
Tout à fait, ça se discute aussi. Et là-dessus aussi, nous avons des propositions qui sont les suivantes. Il nous paraît extrêmement important que tous ceux qui ont une maison dans le centre-ville puissent accéder à leur maison et donc que les voitures puissent rentrer dans le centre-ville pour les riverains. Il nous paraît par contre dommage que des gens traversent le centre-ville sans s'y arrêter par la rue principale, parce que ça les arrange de traverser par là. Donc l'idée que nous avons, c'est de fabriquer un plan de circulation qui permettra toujours l'accessibilité totale, mais qui ne permettra plus la traversée directe, pour que les gens soient encouragés à passer plutôt par l'extérieur quand ils vont de l'est à l'ouest ou inversement.
D'accord, Arthur ?
Et alors, une question à propos... je reviens aussi sur la mobilité. Avec M. Lowenberg, on avait parlé de PC Club, qui irait jusqu'au... enfin, après, comment dire... j'ai oublié le nom... sur environ les berges de la Drôme. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si ce serait plutôt bien ou...
Alors, il faut bien s'entendre sur ce qu'on propose. Et, j'ai proposé le premier itinéraire cyclable dans la vallée de la Drôme, et on l'a réalisé même. C'était en 1998, ça commence un peu à dater. L'idée, c'était d'avoir un itinéraire qui allait de la Bâtie des Fonds jusqu'à Livron-l'Auriol, on l'a mis, on l'a installé, on a planté les poteaux, on a travaillé avec la DDE. C'était un itinéraire cyclable dans lequel on utilisait des chemins existants. Ça, c'est la déambulation, je dirais, agréable, touristique ou familiale. C'est une chose. Ça peut se faire, mais je dirais presque sans rien toucher. Mmh. C'est, à mon avis, vraiment intéressant. C'est très agréable. Moi, je l'ai pratiqué à l'époque souvent, cette descente, et c'était très bien. Ensuite, des pistes cyclables d'utilité locale à l'intérieur de la ville pour permettre aux gens qui circulent en vélo, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs, ou des lycéens, peu importe, pour leur permettre de circuler à l'intérieur de la ville dans de bonnes conditions, entre les différents équipements, les endroits où ils ont besoin d'aller. Ça, c'est pas au bord de la Drôme que ça se fait. Ça se fait en traçant des itinéraires à l'intérieur de la ville, en réservant des espaces, en faisant en sorte que certains moments dans les rues, il y a des priorités qui soient très très clairement affirmées pour les vélos. Voilà. C'est un travail interne à la ville. Celui-là, nous voulons le faire, clairement.
D'accord. Ulysse, votre question sur un autre sujet ou...
Votre liste s'appelle Pour Die Naturellement. Ouais. Quel projet d'importance vous voulez développer pour justement développer le développement durable ?
L'adverbe naturellement.
Voilà, c'est cela.
On en a tellement que la première, ma première réponse, c'est de dire surtout aller prendre le temps de lire tout notre projet sur le site de Pour Dit Naturellement, parce que je ne vais évidemment pas pouvoir tout vous détailler là. Sur le fond, notre idée, elle est au départ très simple en tant qu'écologiste, c'est que, un, cette société ne pourra pas continuer à être aussi injuste qu'elle est. Deux, on ne pourra pas sans arrêt augmenter la consommation énergétique, la croissance économique, etc. sans arrêt. Il va falloir trouver d'autres modèles. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous prenez 3,5% de croissance par an et que vous multipliez ça sur un siècle, faites-le, vous verrez, vous arrivez à 30 fois plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un siècle, on vous dit qu'on consommerait 30 fois plus de pétrole, 30 fois plus de matières premières, etc. C'est juste fou. C'est juste insensé. Donc il faut trouver un autre modèle. Et troisièmement, il faut que ce modèle économique respecte l'environnement. Alors quand on a dit ça, nous, on attaque les sujets, tous les sujets de l'action publique municipale, et on les réfléchit avec cette grille de lecture. Est-ce que ça crée de l'emploi ou de l'activité dans le territoire ? Est-ce que ça améliore les solidarités ? Troisièmement, est-ce que ça respecte l'environnement ? Et quatrièmement, est-ce que c'est conçu avec les gens ? Ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance parfois, est-ce qu'on a pris le temps de travailler avec tous les gens qui sont concernés ?
Concrètement, vous avez des projets, pardon, vous interrompre, pour justement faciliter cette gouvernance commune, des consultations, des DIWA ou oui. Des réunions publiques ?
Tout à fait. Oui, oui, on le propose également. Donc, le premier élément, c'est que on veut que les commissions travaillent réellement en amont des projets. On n'a pas besoin de commissions d'enregistrement, on a besoin de commissions de travail et que ces commissions. Excusez-moi, j'ai un bruit dans le casque.
Éteignez vos portables parce qu'on a du bruit dans le casque. Non, personne n'a son portable ouvert. Bon, on va ranger ça. Désolé. On vous laisse continuer.
Donc des commissions réellement ouvertes dans lesquelles on travaille en amont des projets. Des conseils municipaux où on ne se contente pas de passer les uns après les autres des décisions qui sont déjà préparées, mais aussi on invite à avoir de l'information et de l'expertise pour que tous les citoyens sachent comment on réfléchit aux choses. Un ou plusieurs conseils communaux par an, c'est-à-dire des conseils dans lesquels l'équipe municipale est à la disposition des citoyens pour poser des questions sans formalisme, avec une seule condition, simplement le respect des gens, et c'est tout. Et puis, un travail d'information permanente sur l'avancement de nos décisions. Et ça, c'est une autre manière de travailler avec les gens. Je pense que la démocratie, elle a besoin d'être profondément rénovée, parce que si on continuait à travailler comme on a fait jusqu'à présent, au moment donné, les gens ils disent « c'est plus possible, on ne comprend plus ce qui se passe, on ne comprend plus les décisions ». Autre point important, je souhaite donner un calendrier précis des réunions de conseil municipal avec des délais suffisamment longs entre la convocation et le conseil pour que tous les gens, que ce soit déjà les conseillers municipaux, mais aussi les associations, les structures, tous ceux qui travaillent autour des questions municipales, aient le temps de se réunir, aient le temps de travailler en amont des conseils municipaux. Donc c'est tout un ensemble de méthodes pour rendre la vie plus démocratique.
D'accord, merci. Jimmy ?
C'était pour savoir si vous aviez de gros projets ou seulement des projets par rapport aux lycéens, mis à part la place devant le lycée.
J'en discutais avec des lycéens de nos amis il n'y a pas si longtemps, et ils me disaient deux choses, mais vous allez me dire si... D'abord, ils me disaient c'est difficile de considérer qu'un lycéen est une entité à part. C'est un citoyen de la ville, il y a des tas de préoccupations qui le concernent au titre d'habitant de Die, et qu'il soit lycéen ou pas, finalement, ça ne change pas grand-chose. La deuxième idée, c'est que, pour le moment, les endroits où les jeunes peuvent décider de lancer des choses, de faire des choses entre eux, de créer des dynamiques... Alors, peu importe lesquels, hein, que ce soit, un petit groupe de musique, que ce soit une action culturelle, que ce soit un lieu de rencontre, etc. Pour le moment, ces endroits manquent et qu'il faudrait y réfléchir. Et je crois qu'effectivement, certains soirs de mauvais temps quand on passe d'Andy et qu'on se rappelle qu'on a eu aussi 16 ans, hein, parce qu'on a tous eu 16 ans, on se dit zut, là c'est quand même un peu triste et il y a besoin d'inventer des trucs nouveaux. Mais je ne veux pas plaquer des solutions comme ça sans en avoir discuté justement avec vous.
Ok, merci beaucoup.
Je change de sujet, mais de plus en plus de municipalités proposent des installations de vidéosurveillance. Le candidat déjà évoqué est farouchement contre. Monsieur Lohenberg, quel est votre avis sur la question ?
Mais je l'avais déjà d'ailleurs donné à Radio Diwa il y a quelques temps. On est contre tout. Enfin, c'est ce qu'il faut dire d'abord, c'est que on est dans un des pays les plus sûrs du monde. Les statistiques sont formelles. Il y a moins d'un meurtre pour 100 000 habitants en France. On est au niveau de la Finlande. Les gens savent pas ça. Ils croient qu'on est dans un pays dangereux. On est dans un des pays les moins dangereux du monde. Première chose. Deuxième chose. Là où s'est installée de la vidéosurveillance, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Éventuellement, ça décale le problème de quelques mètres ou de quelques dizaines de mètres. On est dans un endroit où on a tout simplement besoin de remonter en citoyenneté et quand il y a un problème, d'aller voir directement les gens, de leur parler, de leur dire. Et je crois que si on remonte en citoyenneté suffisamment, si on est capable de, non pas de toujours se cacher derrière un outil, se cacher derrière un médium, mais aller directement au contact, eh bien, je pense que les solutions se trouvent et qu'on n'a pas, certainement pas besoin d'outils comme ça.
Donc vos avis convergent, M. Lohenberg, je vais être provocateur, mais pour le deuxième tour, le rassemblement est déjà fait, sur plusieurs sujets, celui-ci en tout cas.
Je pense qu'on rentre en plein dans la campagne, là, et qu'on va comparer les programmes. Nous, on a dit depuis le départ... On a dit depuis le départ que... Une élection municipale, ce n'est pas un match dont les gens seraient les spectateurs. Une élection municipale, c'est un recrutement dont les gens sont le jury. Parce que, passé le moment de la confrontation, la réalité, c'est qu'il y aura une équipe qui aura été choisie et que cette équipe, pendant 6 ans, elle fera tourner, entre guillemets, la mairie. Et qu'elle aura dans les mains environ 2,5 millions d'impôts locaux des DIWA, plus environ 2,5 millions de dotations d'État. Et ça, il faut le prendre en compte. À partir de là, ce que nous, à un moment donné, nous venons faire, c'est proposer un programme, proposer une équipe, dire ce qu'on va faire, dire comment on va travailler, et laisser les gens se déterminer. À l'issue du premier tour, ils auront envoyé un message. Ils diront... Soit les programmes des uns et des autres, on préfère celui-ci que celui-là. Ils auront fixé, en fait, un certain nombre d'objectifs à travers leur vote. Et je pense qu'ils auront préparé la façon dont on produira une alternative à la mairie actuelle. Parce que, de toute façon, nous travaillerons à la production d'une alternative à la mairie actuelle.
Les impôts de Diwa, vous pensez qu'ils sont au bon niveau au moment où on parle? Ou vous avez une intention de les stabiliser, de les diminuer?
Les impôts des Diwa ne peuvent plus augmenter. Ils sont déjà légèrement au-dessus de la moyenne de la strate de communes. Et ils ne peuvent plus augmenter.
D'accord, la réponse est claire. Anne-Sophie, Ulysse et Jimmy, je crois. Les questions fusent. Anne-Sophie, priorité aux jeunes filles. Elles ne sont pas nombreuses en plus aujourd'hui, ne sont que deux.
Alors c'est une question un peu pratique, mais l'été, il y a beaucoup de monde sur Die avec les touristes et par rapport aux places de parking, par rapport justement à cette déviation qui passe devant Chabestan où il y a beaucoup de monde, etc. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les touristes, des parkings? Enfin, c'est une question, mais les parkings payants, c'est envisageable à Die comme dans d'autres petites villes touristiques ou pas?
On n'a pas du tout imaginé de créer du parking payant à Die jusqu'ici. Et ce qui est important en matière de parking, c'est d'arriver à convaincre, et ça commence avec la zone bleue, d'arriver à convaincre que plus on reste longtemps sur une place de parking, plus on peut se permettre de se garer loin. Parce que le paradoxe dans les centres-villes, souvent, c'est que les premiers à dire qu'il n'y a plus de place, c'est parfois ceux qui ont posé leur voiture ventouse pour la journée sur les dites places. Donc il y a un vrai travail d'organisation pour que plus on est proche du centre, plus ça soit des places, entre guillemets, à courte durée. Ça, c'est un vrai travail. Donc on ira dans cette direction. Après, sincèrement, des parkings à Die, il y en a déjà beaucoup. Ils entourent la ville. Il y a une période assez courte, hein, qui est quoi, de l'ordre d'un mois, où vraiment c'est très dense. Et puis le reste de l'année, on n'a absolument aucun problème de stationnement ici, je crois que. Donc nous n'avons pas du tout prévu de créer de nouveaux parkings. Nous avons simplement l'intention de faire en sorte que plus les gens restent longtemps dans une place, plus ils acceptent de se garer un peu moins près. Je dis un peu moins près parce que même quand on est dans les parkings de périphérie, comme on dit à dit, hein, quand on est au théâtre désert ou quand on est au-dessus du gymnase, on n'est jamais très loin du centre quand même. On est certainement moins loin du centre que quand on est au fond du parking de Leclerc.
C'est sûr. Ulysse, Jimmy ?
En septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires vont arriver dans le DIWA. Quel projet avez-vous pour l'enseignement à DIWA ?
C'est une réforme qui, vous savez, est exigeante pour les communes, hein, parce qu'il y a des choses à prendre en charge. En même temps, nous, on pense que c'est une véritable opportunité. Et on va la saisir comme telle. Véritable opportunité parce que c'est le moment de penser à tout un ensemble d'activités et de sujets et de disciplines qui n'ont pas forcément toujours trouvé leur place dans les programmes de l'éducation nationale et qui sont pour autant extrêmement importants, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit l'art, que ce soit même la citoyenneté, que ce soit la façon de construire avec les autres. Il y a énormément de choses intéressantes à faire dans tous ces domaines. Et à faire avec les associations et à faire avec tout un ensemble de partenaires qui peuvent intervenir. Ça, c'est le cadre général. Alors concrètement, je mets les enjeux en place. Concrètement, l'État donne 50 euros par élève et par an. La caisse d'allocation familiale, à peu près 40. Et une vraie réponse... j'ai fait un peu le tour d'un certain nombre de communes pour le vérifier, hein, une vraie réponse coûte environ 250 euros par élève et par an. Ça veut dire qu'il faudra qu'on trouve à peu près 150 euros par élève et par an de fonds communaux, et ça veut dire, compte tenu du nombre d'élèves, qu'on est dans une enveloppe aux alentours de 70-80 000 euros. C'est pas négligeable. En même temps, ça vaut le coup. Et nous, on pense que c'est un vrai beau sujet, une vraie belle opportunité de... Voilà, autour, après les programmes de l'éducation nationale et des moments d'art, de culture, de vie ensemble, d'autres types de choses plus fines, plus qualitatives qu'on peut aussi apporter en plus du socle de l'enseignement qui est fondamental.
Jimmy, tu avais une question. Oui. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler, comme à chaque fois. C'est le 0952 368 531. 0952 368 531. Il vous reste un petit quart d'heure pour pouvoir discuter avec le lycéen ou avec Monsieur Jouve, s'il accepte, et je ne doute pas qu'il accepte, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, le standard est ouvert et nous sommes en direct. Jimmy.
Oui, donc une autre question pareille qui tourne, surtout des lycéens et de tout le monde en fait c'est par rapport au sport. Est-ce que vous avez des projets comme par exemple pour la salle d'escalade ou pour d'autres choses comme
pour
ça?
Pour l'ancien gymnase.
Alors j'ai commencé à faire un inventaire des bâtiments et des installations dont on dispose. Bon, c'est vrai qu'on va quand même devoir gérer un certain nombre de problèmes. L'ancien gymnase est une passoire thermique abominable. Je n'ai pas encore la consommation exacte, mais c'est assez effrayant. Hein, quand on monte en haut des gradins et qu'on s'aperçoit que ce n'est même pas des vitres, c'est juste des bouts de plastique qui donnent la lumière là-haut, ça donne une idée quand même du problème. On a un terrain de foot en plastique qui prend l'eau, hein, qui est assez facilement inondé, et le nouveau vestiaire qui était déjà inondé à deux ou trois reprises. On a un ensemble d'installations qui va de. On a une salle de judo dont les gens me disent qu'ils ont très chaud, hein, dès qu'il commence à faire bon, il fait très très chaud dans cette salle. Enfin, il y a tout un ensemble de questions qu'il va falloir résoudre. Donc on va faire un inventaire complet des installations. On va devoir fixer une liste de priorités et puis dérouler un programme de réhabilitation, d'aménagement, de remise en état parfois. Et puis, il n'est pas impossible qu'on ait à faire des nouvelles propositions. Mais vraiment, j'ai été un peu frappé par la situation de nos équipements. Je ne dis pas qu'ils sont vétustes ou je ne vais pas forcer le trait, mais on a de vrais problèmes pour les remettre en état, pour les rendre plus économes et les rendre plus intéressants. Vous parliez du mur d'escalade. Il est juste 1m50 derrière les panneaux de basket. Ce qui fait que quand on a affaire à des adultes qui viennent jouer au basket, hein, et ils risquent juste de se fracasser dans le mur d'escalade, il n'y a pas suffisamment de recul, c'est vraisemblablement quelque chose qu'il va falloir aussi modifier.
Et d'autres choses, Anne-Sophie ?
C'était, enfin, idem du côté de l'autre salle, avec les cages qui, où il n'y a rien derrière les cages de hand, et c'est aussi dangereux.
Tout à fait.
De la même façon.
Oui, j'ai vu ça. Je pense vraiment qu'on a, comment dire, là aussi, il ne s'agit pas de faire des promesses. Il s'agit de se dire, on va vraiment travailler avec l'ensemble des clubs, regarder quels sont les sujets les plus importants, arriver à repérer lesquels sont les plus urgents et bâtir un plan pluriannuel d'investissement et de remise en état pour tous ces équipements.
Ulysse, une autre question.
Quelle politique comptez-vous développer en faveur de l'emploi dans le DIWA ?
Nous avons très vite... Alors ça revient à la question dont on parlait tout à l'heure. On a une conviction particulière...
Pour dire naturellement ?
Oui, en tant qu'écologiste. On a une conviction particulière, c'est que l'économie de demain sera construite différemment de celle d'hier. En gros, il y a des grands thèmes sur lesquels on était complètement hors champ dans l'économie du XXe siècle. C'était une économie qui avait besoin d'autoroutes, qui avait besoin de beaucoup de matières premières, qui avait besoin de pondéreux, de camions, etc. Cette économie-là, elle n'était pas pour nous. On ne pouvait pas l'atteindre. Et peut-être tant mieux pour le territoire aujourd'hui, qui est un territoire attractif. L'économie nouvelle, c'est beaucoup plus une économie de la connaissance. C'est beaucoup plus une économie de la créativité, puisque les grosses machineries industrielles sont parties dans les pays émergents. Aujourd'hui, c'est la création, c'est la créativité, c'est l'intelligence, c'est les bureaux d'études, c'est la conception, c'est tout un tas de métiers intellectuels qui sont en train de se développer. Je pense aussi que le deuxième champ sur lequel on va travailler, c'est celui de la production décentralisée, parce qu'avec le développement très rapide des imprimantes en trois dimensions, on va complètement changer le paysage industriel de la France dans les 5 à 10 ans qui viennent, et qu'il faut regarder ça de près. Et puis bien évidemment, il y a toute l'économie qui est liée aux atouts propres du territoire. Énergie renouvelable, filière bois, tourisme, éco-construction, plantes aromatiques et médicinales, etc. Ce sont des choses qui n'ont pas arrêté de progresser. Les plus belles entreprises d'ailleurs sont dans ce domaine-là, dans le DIWA, et qu'on a bien l'intention de continuer à encourager. Et ça veut dire qu'il faut travailler sur une qualité globale. C'est là où tout se rejoint. Pour que le DIWA fonctionne bien, pour qu'il soit attirant pour des entreprises de ce genre, pour que ça marche, il faut à la fois pouvoir accueillir les entreprises, les aider quand elles s'installent, il faut les attirer, parce que le cadre de vie est bien, parce que les services publics fonctionnent, parce qu'on a la fibre optique pour avoir du très haut débit. Après, il faut les aider à se développer et les aider à grandir. Donc c'est une stratégie d'ensemble, mais elle est clairement, pour nous, orientée vers la nouvelle économie. Et cette nouvelle économie, c'est à la fois les nouvelles technologies, l'économie de la connaissance, le développement durable, les ressources naturelles et renouvelables.
Donc, profiter du territoire aussi, de son contexte, pour créer ce type d'emploi.
On y met
déjà, mais développer un maximum.
C'est ça, parce que les gens ne savent pas beaucoup, on en rencontre pourtant individuellement. Il y a déjà énormément de gens qui se sont installés dans le DIWA, qui travaillent dans le DIWA, avec, en fait, ils n'apparaissent pas dans les statistiques parce que leur employeur est à Paris ou à Lyon. Mais une grande partie de leur temps, ils le passent ici. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une part, ils produisent ici. Ça veut dire qu'ils consomment ici et qu'ils participent au développement d'une économie résidentielle. Ce qu'on appelle une économie résidentielle, c'est qu'ils font travailler les commerces, c'est qu'ils font travailler les artisans, c'est qu'ils font travailler les producteurs locaux, etc. Et ça, le développement de cette économie résidentielle, parce qu'on aura su attirer des gens qui notamment ont beaucoup développé leur activité en télétravail, ça fait partie pour nous des pistes de création d'emploi dans le DIWA.
D'autres sujets qu'on n'a peut-être pas abordés, on n'a pas parlé de l'hôpital, je ne sais pas, où, ça tombe bien.
Voilà.
Ça marche par télépathie avec Ulysse. Je sens que tu vas parler de l'hôpital.
Voilà, que comptez-vous faire pour l'hôpital continue. Voilà.
Nous
ça,
avons.
C'est la question courte.
Ouais, c'est les. La réponse sera peut-être un peu moins courte, mais je vais essayer de faire quand même court. L'hôpital d'Audi n'est évidemment pas ne peut évidemment pas vivre avec les techniques du 21e siècle sur un bassin de population de 11 500 habitants. Je crois que c'est clair pour tout le monde aujourd'hui. Donc il y a, par rapport à ça, quand on est devant cette équation, il n'y a pas trois solutions, il n'y en a que deux. Soit on accepte que l'hôpital se comprime en devenant demain juste un endroit où on s'occupe des personnes âgées pour faire vite et où on garde quelques services d'urgence. Soit on n'accepte pas cette situation et on fait tout pour que l'hôpital acquiert des spécialités de niveau régional qui soient susceptibles de faire venir dans le Diois des gens qui pour se soigner. Et ça, c'est ça notre perspective. Je pense que réclamer le maintien en l'état de l'hôpital, ça ne marchera pas. Réclamer par contre que cet hôpital acquiert des compétences régionales, qu'il y soit propre, qu'il soit lié à la qualité du territoire, qui permettent peut-être par exemple de la remise en forme, de la convalescence, du traitement de maladies longues, des choses qu'on peut apporter dans le Diois, parce que le cadre de vie s'y prête, et puis parce que peut-être un jour on aura une petite piscine couverte de santé. Tout ça se tient. C'est à notre avis la piste pour sauver notre hôpital et pour le développer. Il a besoin de se développer.
En se spécialisant donc.
En se spécialisant. En offrant des choses qui ne sont pas suffisamment répandues en Rhône-Alpes et pour en faire du coup un endroit où il y a des spécialités qui sont à usage régional et pas seulement à usage local.
Oui, Ulysse, une dernière question peut-être parce qu'il
voilà, c'est ce que,
quatre donc, petites minutes.
Dernière question qu'on va sans doute poser à tous les nouveaux candidats. Qu'est-ce qui vous différencie du maire sortant ?
Ce qui m'embête dans cette question, c'est que je n'ai pas envie de...
Ça n'est pas une compétition, il l'a dit tout à l'heure.
Ouais, c'est ça, exactement.
Je ne veux pas répondre à votre place, mais je sens que c'est ce que vous allez dire.
Bah oui, je dirais que ça va être au Diois hein, de faire ce travail, de voir qu'est-ce qui nous différencie du maire sortant. Nous, en tout cas, on arrive avec, d'une part... des convictions que je vous ai données tout à l'heure sur une façon de voir le monde et en se disant on veut dans l'action municipale faire en sorte que notre part de travail soit faite par rapport à l'injustice sociale, par rapport à la nécessité de changer de modèle économique et par rapport à la protection de l'environnement. Donc ça c'est notre fond à nous. On arrive avec une équipe unie, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Le projet qui est disponible depuis novembre sur notre site internet, il a été pensé avec de très nombreuses réunions et il s'incrémente encore des réunions qu'on tient, qui sont ouvertes tous les jeudis soirs avec les gens qui viennent. On a des compétences à disposition. Beaucoup de personnes dans l'équipe savent faire tourner des services municipaux, savent faire tourner des équipes. Et on a déjà des réalisations, les uns et les autres, qu'on peut mettre en avant pour montrer ce qu'on sait faire. Voilà. Donc on arrive devant notre jury de recrutement avec à la fois cette équipe, ses propositions et puis des références, comme on dit. Après, c'est aux gens de faire ce travail de comparaison.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange avec les lycéens ? Ça passe très vite, hein, toujours trop vite. Mais est-ce qu'il y a des questions qui vous ont surpris ? D'autres que vous attendiez, vous n'avez pas eu ? Des frustrations, des étonnements ?
Non, j'ai un plaisir fou à faire ce genre de choses. Parce que je pense que même il faudrait pouvoir le faire en dehors des périodes d'élection. Hein, ça serait vraiment intéressant à intervalles réguliers de le faire. Moi, c'est quand vous voulez, après même. Hein,
On retient.
Ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir le temps de le faire sur le fond. J'ai beaucoup apprécié que les questions ne soient pas des questions de journalistes nationaux qui cherchent sans arrêt la petite bête, le petit machin, à faire sortir la petite phrase ou à trouver la petite contradiction. Et du coup, des fois, dans ces émissions nationales, on passe la moitié du temps à attendre que les questions de fond soient abordées. Donc ça, je vous le dis, j'apprécie beaucoup. Vous avez des vraies questions, quoi. C'est important. Et puis, je crois que cet exercice... comme ça, de démocratie directe, il sera de plus en plus fondamental, notamment avec vous, les jeunes, parce que moi, je ne regarde pas des lycéens, je regarde surtout des gens qui auront les manettes dans 5 à 10 ans d'ici. Et voilà, vous avez du boulot, quoi.
Est-ce que vous auriez une question à poser aux deux personnes que nous recevons la semaine prochaine, en l'occurrence M. Trémollet et le maire de Die, M. Berginia ? J'en profite pour dire à nos auditeurs qu'exceptionnellement, on prolongera l'émission, toujours par souci d'égalité du temps. Donc on recevra dans un premier temps le maire de 12h10 à 12h50, puis ensuite de 12h50 à 13h30, M. Trémollet, donc qui est le dernier candidat déclaré en date, notamment via le journal du Diois. vendredi dernier. Est-ce que vous auriez une question à poser à un des deux ou...
Non, je n'ai pas, j'ai pas de question en direct à leur poser. Je leur propose, comme on l'a toujours proposé, que cette campagne qui a commencé dans de bonnes conditions, avec je pense un respect mutuel continu, je crois que c'est tout à fait possible.
Il y a des débats qui sont prévus, peut-être sur Radio Diwa, je ne sais pas, non, en dehors de cette émission, non, pour on l'instant, c'est pas encore.
Nous, on est à la disposition de toute forme de débat à partir du moment où il est équilibré et surtout qui va sur le fond. Parce que, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de parler des projets, des programmes.
D'accord. Eh bien, Monsieur Jouve, merci d'avoir accepté cette invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. De part et d'autre, donc. Et les lycéens et lycéennes seront là de nouveau la semaine prochaine. Et à votre place, donc, deux invités. Dans un premier temps, Monsieur Berginia et ensuite Monsieur Trémollet. Nous vous disons donc rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute des programmes de Radio Diwa sur 107.5. La radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. J'espère qu'on a susciter un peu la curiosité des auditeurs et puis que M. Jouve, comme M. Lowenberg, il y a 15 jours, ont répondu à un certain nombre de questionnements que vous avez. On vous rappelle les dates des élections municipales, c'est le 23 et le 30 mars, je ne dis pas de bêtises, donc ça approche. C'est le mois prochain finalement. Voilà, excellente journée à tous et à la semaine prochaine, midi 10, en direct comme d'habitude pour CCC numéro 17.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.